Nous allons parler aujourd'hui de culture visuelle avec Monsieur Laurent Grisoni, qui est professeur d'informatique au laboratoire d'informatique fondamentale Lille 1, UMR 8022, Lille 1. Laurent Grisoni, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on va parler d'un sujet aujourd'hui qui est assez rare d'ailleurs dans les émissions qu'on peut diffuser sur les radios, notamment de la région. Donc c'est autour des cultures visuelles, autour de l'image d'une manière générale et de l'impact de l'image sur la société, c'est bien cela ?
Absolument.
Voilà, donc votre laboratoire travaille en collaboration avec d'autres laboratoires et d'autres disciplines, on va dire, puisque vous êtes spécialiste en informatique, mais vous travaillez avec des gens qui travaillent dans l'infocom, avec des gens qui travaillent dans la sociologie, avec l'art, bien sûr, l'art graphique.
Oui, c'est-à-dire que l'équipe dont je m'occupe travaille en interaction machine et en réalité virtuelle. Et dans ce cadre-là, certaines de nos problématiques ont rejoint des questionnements que d'autres communautés scientifiques, donc typiquement les psychologues et les gens d'histoire de l'art, avaient autour de la perception du monde et du rôle de l'image au sens le plus générique qu'on puisse y trouver, au travers de l'histoire et dans la réalité de la société actuelle, en tenant compte des nouvelles technologies, de savoir ce que ces nouvelles technologies permettaient de comprendre sur l'image en question, donc au travers de son évolution historique, ainsi que de savoir comment elle redéfinissait la relation de la personne au monde. Sachant qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de choses qui se passent via l'Internet, via les écrans, etc. Et donc voilà, tous ces enjeux-là se retrouvent effectivement un petit peu fédérés autour d'une plateforme d'excellence qui vient d'être acceptée en décembre, à l'appel de décembre.
Alors, l'image au travers des sociétés, elle a toujours eu un rôle important, un rôle de communication aussi, un rôle de culture. Actuellement, on peut dire qu'elle est omniprésente, cette image. On nous la fait passer par tous les conduits, tous les médias.
Oui, oui, votre remarque me fait sortir un petit peu de mon champ habituel de compétences, mais il y a effectivement une chose qui est assez... Un constat qu'on peut faire assez facilement, c'est que une société qui s'est construite autour des mots à l'heure actuelle est baignée dans l'image. L'image devient un média de communication à part entière. C'est un phénomène qui est effectivement très récent et ça nécessite une réécriture, une redéfinition de beaucoup de choses.
Donc votre mission dans ce projet global avec vos associés, elle est d'une manière précise de faire quoi ?
Alors, la problématique de recherche de l'équipe, qui est par ailleurs projet INRIA, donc il y a un projet qui a été défini, qui est assez cadré, c'est tout ce qui concerne l'interaction via le geste. Donc d'essayer de proposer des techniques d'interaction autour des systèmes tactiles que le grand public connaît, mais qui sont encore partiellement compris d'un point de vue scientifique. Et à partir de ces systèmes tactiles, d'un certain nombre d'avancées matérielles qui commence par exemple à permettre au bout du doigt de ressentir des informations. Donc sous le contrôle de l'application, l'utilisateur peut ressentir des informations au bout du doigt, donc on a un peu plus dans un domaine recherche que ce qu'on peut avoir simplement comme entrée de l'utilisateur à l'application via un système d'écran standard, et bien d'essayer de proposer des systèmes qui vont petit à petit définir un continuum entre ce contact à l'écran et cette relation distante qu'on peut avoir par exemple via des systèmes relativement peu cher, comme par exemple les systèmes basés sur la Kinect ou système matériel équivalent. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire en termes de recherche, c'est de permettre aux gens d'utiliser la technologie de la manière la plus souple possible, donc de proposer des outils, des méthodes qui permettent d'aller vers cette possibilité-là pour une personne de mettre en interconnexion facilement les objets technologiques. Tout piloté par la main. Et donc par rapport à la confluence des problématiques, même en restant dans le domaine technologique, on ne peut pas travailler sur ces questions-là sans tenir compte de la réalité de la personne qui va interagir. C'est-à-dire que quand on travaille à l'intérieur de l'équipe, on est en monde clos, mais pour proposer des choses qui ont vraiment du sens dans une logique d'interaction machine, il faut être capable de prendre en compte ce qu'est un utilisateur. Et en étant scientifique, technologue, on n'est jamais complètement conscient
donc c'est vrai
de ce que peut être un utilisateur.
L'homme ayant une vision finie et aussi une capacité finie à aller chercher certaines images, vous amenez des compléments, j'allais dire des prothèses.
Alors, la notion de prothèse est intéressante. Disons qu'on a... la technologie peut apporter un certain nombre de choses. Elle peut permettre, d'abord, via la distance... de faire justement oublier cette distance, c'est-à-dire de rapprocher les gens. C'est ce qu'on peut, avoir par exemple par rapport à n'importe quel système de visioconférence. Mais l'idée sur ces systèmes-là est d'essayer de mettre en relation les personnes de manière un petit peu plus fine que ce qu'on pourrait faire à distance via la visioconférence. Comme par exemple, si on est autour d'une table, je peux vous passer une feuille de papier, je peux passer des documents. Par un système de visioconférence, c'est un petit peu plus compliqué. La réalité du travail... deux à distance, c'est un petit peu plus compliqué. À côté de ça, y a un certain nombre de choses qui peuvent, par exemple, concerner tout ce qui est reconstruction historique, reconstitution visuelle. Y a un certain nombre de supports, et ça, c'est les historiens de l'art qui ont cette problématique-là, sur lesquels on a des textes, on a des descriptifs, mais le support visuel dont parle ce texte-là n'existe plus. A été détruit ou endommagé pour une raison variable. Et donc, pour les historiens, se pose la question de savoir qu'est-ce que la personne qui a écrit le texte en question, au moment où elle l'a écrit, pouvait voir des choses en question. Je pense par exemple à un des salons du Louvre au XVIIe siècle, dont un certain nombre de descriptifs ont été écrits. L'hypothèse des historiens de l'art est à l'heure actuelle que ce qui a été écrit ne pouvait pas se baser sur une visualisation objective, dans la mesure où tout simplement le tableau dont le texte parle était beaucoup trop loin de la personne en situation de déplacement standard dans le salon. Ceci pour le valider, la seule manière de faire, c'est de se retrouver de manière virtuelle dans une copie aussi conforme que possible du salon comme il l'était à l'époque.
Donc vous recréez, on va dire, des images d'une réalité perdue, un peu comme des musiciens recréeraient la musique égyptienne qu'ils n'ont jamais connue, mais dont ils imaginent qu'elle aurait pu être jouée comme ça.
C'est alors une des problématiques, c'est effectivement une des problématiques possibles, c'est de redonner accès via le virtuel à des choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Cette activité-là se fait d'ailleurs, et c'est une des qualités du projet dont je parlais tout à l'heure, elle se fait en coordination avec des entreprises de la région qui sont à même de fournir le contenu et la géométrie, enfin tout le contenu visuel pour nous permettre de travailler et qui nous permettent à nous, travaillant spécifiquement sur l'interaction entre l'homme et la machine et pas tellement sur le contenu des applications, de pouvoir avoir des choses qui soient des ensembles coordonnés, intéressants par exemple pour l'histoire de l'art. Et à partir du moment où on bénéficie d'une reconstitution qui soit intéressante, bien entendu ça peut être intéressant aussi pour le grand public.
L'informatique joue certainement un rôle important dans ces analyses qui permettent d'aboutir à des objets visuels, des objets graphiques.
Mmh, absolument.
Est-ce qu'on peut dire aussi qu'elle peut accompagner des scientifiques en captant à des endroits pour eux impossibles des images à partir de technologies qui sont répartis tout au long d'une chaîne de captation, on va dire, qui redonne une image globale d'un objet qui visuellement est impossible à découvrir.
Alors, les sources de données par rapport aux problèmes que l'on peut traiter, elles sont diverses et c'est en soi un enjeu d'arriver à reconstruire, entre guillemets, les données dont on a besoin pour mettre en place l'interaction, pour rester sur la question qu'on traite en recherche. Donc, reconstruire ces données-là à partir de ce qu'il est raisonnable d'envisager comme captation, c'est en soi un enjeu. Je parlais tout à l'heure des caméras Kinect. Ce sont des caméras qui permettent de récupérer les informations d'une personne, mais à partir du moment où on a toute l'information de la personne, on n'a pas très très finement les mouvements de la main de l'utilisateur. Or, via les mouvements des doigts, passe énormément d'informations. Et toute la finesse d'interaction, c'est généralement via les doigts qu'on a. Et donc, du coup, on a généralement assez souvent besoin, à partir du moment où on a besoin d'avoir vraiment des informations fines, soit de matériel qui seront souvent chères, relativement fragiles, donc très peu grand public et à potentiel de transfert pour les entreprises très très limitées, ou alors d'essayer de tenir compte de capteurs qui seront beaucoup moins chers, qui marcheront un peu plus, inévitablement un peu moins bien, mais par contre que l'on peut multiplier, que l'on peut combiner avec d'autres capteurs, et donc d'essayer de trouver des ensembles de captations qui soient suffisamment redondants pour qu'on puisse ensuite, via du traitement du signal et de l'extraction sémantique, permettre de mettre en place une interaction satisfaisante.
J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'évolutions dans le domaine du robot, par exemple, et qu'on imaginait des robots maintenant où tout n'était pas centralisé, comme un peu dans l'homme, chez l'homme, où le cerveau est prépondérant en termes géographiques, on va dire, mais que l'ensemble des centres de décision ou d'efficacité par rapport à la perception était réparti tout au long du robot, qui n'est pas forcément à l'image de l'homme, hein, mais qui est un objet qui peut avoir une forme très différente selon le projet.
Mmh. Oui, effectivement, il y a une certaine mouvance technologique qui vise à essayer de distribuer le potentiel de calcul, parfois pour faire le calcul à l'endroit où ça a du sens, parfois pour permettre d'utiliser des systèmes intégrés relativement peu chers, par exemple à l'heure actuelle pour les gens qui connaissent ce type de matériel, il y a des dispositifs embarqués qui se présentent sur des mini-cartes type Arduino ou les systèmes Raspberry Pi là, qui vont sortir très bientôt, qui proposent une certaine puissance de calcul, mais qui sont très peu chers et qui sont déjà intégrés. Donc pour $30, on a déjà une capacité de calcul. Pour pouvoir utiliser ces choses-là dans une logique embarquée, ça présuppose quand même d'avoir la distribution des unités de contrôle sur les dispositifs. C'est vrai pour la robotique, mais c'est vrai dans une logique de domotique ou d'informatique ambiante, c'est de plus en plus vrai. Sur un smartphone, on peut faire énormément de choses, par exemple.
Est-ce que ces images que vous obtenez ou dont vous donnez les clés pour les obtenir peuvent intéresser le monde artistique, par exemple?
Oui. Alors, il y a dans la stratégie de l'équipe, donc autour de l'interaction machine et donc des nouveaux systèmes, des nouveaux dispositifs d'interaction, un des argumentaires était que travailler sur ces questions-là en 2012... Il y a une réalité, il y a une chance qui est absolument unique, c'est qu'on a, à l'heure actuelle, parmi la génération, on va dire, de jeunes adultes, donc aux alentours de 25 ans, ces gens-là sont nés avec le numérique. Ils ont grandi avec Internet, ils ont grandi avec un smartphone, etc. Et donc, du coup, pour cette partie de la population dont l'esprit est tourné vers une orientation artistique, une part significative de ces gens-là, inévitablement veulent utiliser les nouveaux supports numériques comme support d'expression artistique. Et donc pour nous en tant que scientifiques, cette population-là, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que de temps en temps, ça va nous confronter à la réalité de ce qu'on sait faire et de ce qu'on ne sait pas faire. Et dans ce qu'on ne sait pas faire, il y aura parfois des questions qui sont des questions de fond, qu'on connaît mais qui ne sont pas réalisables pour des raisons lambda, mais on va de temps en temps pouvoir trouver entre guillemets des belles questions, c'est-à-dire des questions qui sont suffisamment intéressantes parce qu'on ne sait pas encore les faire, mais suffisamment réalistes pour qu'on puisse envisager d'essayer de les faire. En pratique, la recherche évolue très lentement, mais de temps en temps on a ces petites fenêtres de tir. Et par exemple, l'année dernière, il y a eu deux installations qui ont été faites en collaboration avec le Frénois, qui est le studio d'art contemporain situé à Tourcoing, autour de l'interaction distante, l'interaction à Kinect. Et donc on a proposé une installation, un artiste qui s'appelle Alexandre Maubert a proposé une installation qui s'appelle Monade, qui est un film qui tourne en boucle dans une zone géographique de l'Argentine. Et vu d'un point de vue strictement technologique, la personne qui est en train de voir le film à distance peut, en pointant à droite ou à gauche de l'écran, sélectionner la bande-son qui l'intéresse. Donc on est dans une logique artistique d'expression, mais on est dans un support qui permet, via la technologie, d'enrichir un petit peu la relation au film. Donc des choses qui peuvent, pour ceux qui réfléchissent dans un contexte industriel à des choses comme la télé connectée, par exemple, permettre de se projeter dans un certain nombre de possibles. On a aussi réalisé l'année dernière une installation que je trouve très belle. Il y a une artiste qui s'appelle Léonore Mercier qui a proposé un, une installation qui s'appelle Dhammasama, qui est un ensemble de 24 bols tibétains. D'ailleurs, cette installation-là a été exposée pendant un mois au service culture de Lilin. Et elle est, pour ceux qui auraient la chance d'aller à Bruxelles cette semaine, elle est exposée au musée des instruments de musique à Bruxelles dans le cadre de la semaine du son.
Je l'avais vu au Frénois dans Panorama.
D'accord.
Mais vraiment, c'est un moment interactif, on va dire, parce que le public peut oui. jouer de ses bols. Hein.
Oui. Et donc, dans cette installation-là, le spectateur, la personne qui vient voir l'œuvre, a la possibilité de se placer dans le rôle du chef d'orchestre, en quelque sorte, de ces bols, et de commander au bol à distance, sans captation, et de taper virtuellement. Enfin, l'impact est réel, mais simplement l'impact n'est pas entre la main et le bol, on tape à distance. Donc on effectue une commande, cette commande est récupérée et comprise par le système, et il y a des actionneurs qui sont déclenchés pour taper, pour déclencher effectivement le son. Ce qui est intéressant, c'est que le code de commande, qui est notre contribution à ce système-là, nous a permis par la suite de faire énormément de systèmes d'interaction dans des domaines d'application complètement différents. Et donc du coup, on se retrouve avec une logique où la démarche artistique, qui est la démarche qui a été la démarche initiale, la première requête, elle a émané du domaine artistique, nous a permis à nous d'avancer au final plus vite sur d'autres domaines qui sont les domaines plus classiques de recherche.
En fait, il y a l'objet concret de réalisation et puis il y a la méthodologie qui permet de faire évoluer les pratiques.
Absolument. Donc la méthode de travail classique d'une équipe de recherche, c'est on travaille à son papier, on fait son beau papier, et quand on est content, on trouve quelqu'un, enfin, on fait de la valorisation, donc on trouve un utilisateur. Là, il y a une prise de risque un petit peu plus forte et une ouverture volontariste vers l'extérieur. Et en dehors enfin pour nous en termes de retour, au-delà de la contribution et donc l'existence de cette librairie logicielle, il y a aussi le fait de voir des utilisateurs, donc dans un environnement non contrôlé. On peut observer les enfants en situation, on peut se rendre compte que les enfants, dès qu'il s'agit de pointer, c'est quelque chose qui, dès un an, est très très vite compris. C'est-à-dire le simple fait de voir quelqu'un interagir comme ça, les autres enfants essaient de faire pareil. Ça permet de se projeter dans l'idée de savoir si oui ou non l'utilisateur moyen accepterait ce type d'interaction dans la gamme de techniques où c'est réalisable. On a pu voir aussi des enfants qui, après qu'ils avaient compris qu'on tapait sur les bols à distance, simplement en les pointant, en sortant de là, n'importe quel écran, on essayait de pointer vers l'écran pour voir s'il se passait quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a le même phénomène vis-à-vis de ces pointages que ce que les gens de muséographie, par exemple, peuvent constater dans leurs espaces publics. Les gens des musées vont vous dire, si vous mettez à l'heure actuelle un écran à portée de main dans un espace public, le soir, vous le retrouvez couvert de traces de doigts. Tout simplement parce que les personnes estiment que si c'est accessible, c'est que c'est tactile, et donc il doit y avoir de l'interaction. Et donc tout ça, pour nous, ça a du sens.
C'est vrai que c'est culturel, par exemple, les gens touchent un écran, il toucherait moins, par exemple, une statue.
Oui.
Alors que, par exemple, en Chine, on voit des gens qui grimpent carrément sur les objets d'art dans les musées.
Alors, la dimension culturelle est effectivement intéressante. Il y a une autre chose, dans le domaine purement numérique, qu'on a pu constater, c'est que la perception visuelle d'un objet influe énormément sur ce qu'on va projeter comme potentiel d'interaction. Ce que je veux dire par là, c'est que des gens n'auront pas tendance à toucher une statue parce que dans la culture européenne, souvent les statues, on n'a pas le droit de les toucher pour une question de conservation. Pour peu que ce soit une statue religieuse, on est dans un environnement où on a appris qu'on n'a pas le droit d'aller toucher les statues. Donc la réalité culturelle de l'objet influe fortement sur ce qu'on va imaginer comme potentiel d'interaction. Prenez n'importe quelle application informatique. Si l'application ressemble à une application de traitement de texte, on va l'imaginer taper du texte, c'est tout.
Laurent Grisoni, donc, toutes ces images qui sont produites en région, est-ce qu'elles peuvent intéresser également la pleine image qui est un gros lieu ressource, un pôle, on va dire, d'exception certainement, même au niveau national, où les gens qui vont travailler autour de l'image vont se retrouver, sinon s'implanter?
Absolument. Le projet d'équipement d'excellence dont je parlais a entre autres spécificités au-delà de la, je veux dire, du rapprochement des communautés scientifiques dont je parlais entre les STIC, la psychologie, les gens d'histoire de l'art, la sociologie également. Il a cette spécificité d'avoir comme lieu de développement un lieu qui est aussi un lieu de développement économique et de redynamisation, je dirais, d'une grosse partie de Tourcoing.
Donc il y a des financements relativement importants qui sont engagés par rapport à cette pleine image qui est à Tourcoing, effectivement.
Oui.
Et des partenariats naturels, on va dire, avec le Frénois, le CRAV et d'autres structures comme ça qui sont en pointe.
Oui, absolument. Il y a effectivement une conjonction assez intéressante entre, d'une part, l'existence d'un certain nombre de bâtiments qui étaient... je dirais des reliquats de la belle époque industrielle de Tourcoing, donc qui se retrouvent avec une seconde vie via cette redynamisation. Des moyens qui sont donnés pour partie par LMCU, pour partie par l'État-région. Et effectivement, la concomitance d'un certain nombre d'intelligence, je dirais, de plusieurs écosystèmes où chacun... se rapproche de l'autre avec un intérêt propre, c'est-à-dire des choses qui sont intéressantes par rapport à ses propres critères d'écosystème, mais des choses qui sont aussi dans une logique de mise à disposition de ses propres compétences par rapport aux autres. Et entre l'écosystème économique, l'écosystème scientifique et l'écosystème artistique, chacun a un intérêt et des compétences qui sont complémentaires de l'autre. Donc le véritable enjeu, je crois, de cette zone-là, c'est vraiment de définir cet écosystème riche et de permettre à cette complexité de s'exprimer et puis de générer une dynamique intéressante.
Voilà, on peut dire que c'est un pôle européen de l'image qui est en train de naître en région Nord-Pas-de-Calais.
Ça part bien, effectivement.
Voilà, eh bien, Laurent Grisoni, je vous remercie. Je vous souhaite bon projet pour cette année. Quelle est votre prochaine étape de travail?
Est-ce que vous pouvez préciser votre question?
Cette année, qu'est-ce que vous avez comme objet à réaliser?
Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets en cours. Par exemple, là, on travaille à l'heure actuelle sur le perfectionnement du Damasama, c'est-à-dire qu'on change un certain. Enfin, l'année dernière, le développement s'est fait dans une réalité budgétaire et de calendrier qui était donnée. On essaie sur certains points de faire des petits changements qui sont des choses qu'on peut proposer qui nous permettent d'avancer un petit peu sur les choses. Il y a aussi la question de la mise en vibration des bols qui pourrait être intéressante et qui nous fait avancer sur d'autres questions. Et puis dans les projets qu'on a à l'heure actuelle, on passe pas mal de temps autour du geste de pointage distant pour essayer de proposer aux gens des systèmes contrôlés par la main sans contact.
Laurent Grisoni, je vous remercie.
Merci à vous.